Chapitre 2. Le lendemain, Mariette, après l'avoir curieusement fait bâiller, remit à son maître une toute petite lettre où les chiffres de Madame de M étaient estampés au fer froid. Il ouvrit avec précipitation. C'était son billet d'invitation. Dans les lacunes de l'impression remplie par la main de Madame de M, une écriture anglaise, grêle et fluette, se penchait paresseusement de gauche à droite et s'épaulait sans façon contre les lettres moulées. Cette écriture choqua Rodolphe. C'était l'écriture de toutes les femmes possibles, maintenant que toutes les femmes savent écrire et que les cuisinières orthographient épinard sans H aspiré. Cette anglaise-là était celle qu'on démontre en 25 leçons et qui ne permet pas aux mœurs et aux habitants de la habitude de la personne de se reproduire dans ses courbes et ses déliés mathématiques. Richardson, qui a tout observé, fait la remarque que l'écriture de la mutine amie de Clarisse Harlowe était irrégulière et fantasque comme son esprit, et que les queues de ses P et de ses G étaient contournées avec une crânerie particulière. Maintenant, il n'aurait rien à reprendre à l'écriture de la capricieuse Miss, car les femmes, après avoir adopté une âme de convention, un esprit et une figure de convention, ont adopté aussi une écriture de convention, en sorte qu'il n'est plus possible de les saisir un seul moment dans le vrai. Elles sont perpétuellement armées de toutes pièces. Il y a là-dedans une rouerie machiavélique. Un billet d'amour ainsi écrit peut se perdre sans le moindre risque. On ne le reconnaîtrait qu'à la signature. Quand même, on serait le mari. Et l'on ne signe pas souvent ces sortes de choses, maintenant surtout que l'on n'a guère qu'une maîtresse à la fois. Cependant, Rodolphe finit par prendre son parti là-dessus, pensant être amplement dédommagé par le reste. Le jour de Madame V.M. était le samedi, comme le lecteur le sait déjà, et jusqu'à ce bienheureux jour, notre héros ne laissa aucun repos au tailleur pour l'achèvement de son gilet phénoménal, à qui il voulait faire perdre sa virginité dans le salon de Madame de M. L'instant vint de s'habiller. Il déploya et fripa plus de 20 cravates avant de se fixer à une. Il mit et ôta tous ses pantalons les uns après les autres, sans pouvoir se décider à faire un choix. Il arrangea ses cheveux de 10 manières différentes et finit par être costumé d'une façon assez drôlatique. Tous ses préparatifs sentaient le bourgeois d'une lieue à la ronde. Un troisième clerc d'avoué, invité à une soirée de marchande de mode, ne se serait pas conduit autrement. Et en ce moment-ci, nous sommes forcés d'avouer que notre poétique héros partage en pleine patauge en pleine prose. Dieu veuille qu'il se puisse tirer de ce bourbier et qu'il parvienne enfin à se dessiner dans l'existence sous un jour dramatique et passionné, tout à fait digne d'un homme et d'un artiste. La bizarrerie de son costume souleva un petit murmure dans le salon, et toutes les têtes se penchèrent curieusement vers lui. Il salua Madame de M, et lui marmotta je ne sais quelle phrase banale que, pour son honneur, l'honneur de Rodolphe et non celui de Madame de M, je m'abstiendrai de rapporter ici. Puis il alla se mettre sur une causeuse à côté de son camarade Albert. Et puis, ma foi, il mangea des gâteaux, il avala des romances et des verres de punch, absorba à lui seul presque tout un plateau de glace, entendit et applaudit une lecture de vers classiques absolument comme une personne naturelle. Si bien que tout le monde, qui s'attendait à voir un original, un lion, comme disent les Anglais, était émerveillé de le voir s'acquitter des devoirs sociaux avec une aisance aussi parfaite. La prose envahissait notre héros d'une façon singulière. Un agent de change, qui avait lié conversation avec lui, fit un calembour. Eh bien, non seulement Rodolphe ne tomba pas en syncope à cette turpitude déchargée à bout portant, mais encore il répondit par un calembour redoublé qui aurait donné la jaunisse à Audry et qui fit écarquiller les yeux à l'honnête industriel de manière à ce que ses prunelles fussent tout entourées de blanc, ce qui est la plus haute expression de l'étonnement si l'on en croit les cahiers de principe à l'usage des pensionnats. L'épicerie du siècle avait enfin rompu le cercle magique d'excentricité dont Rodolphe s'était entouré pour se garantir de l'épidémie régnante. Des vapeurs épaisses de mélasse condensaient autour de lui et lui faisaient voir tout sous un jour bourgeois et mesquin. Et si, à cet instant, on lui avait chaussé la tête d'un bonnet de garde national et affûté au derrière une giberne et un briquet, loin de trouver la plaisanterie de mauvais goût, il vous aurait demandé votre voix pour être caporal et se serait incontinent mis à crier « Vive l'ordre de choses et son auguste famille !» aussi bien que le digne M. Joseph Prudhomme. Le calembour, colporté par l'argent de change, s'infiltra dans tous les groupes et excita un petit frémissement d'admiration qui se termina par un éclat de rire universel. Tous les hommes toisèrent Rodolphe d'un air d'envie et toutes les femmes d'un air de bienveillance marqué. Décidément, Rodolphe avait les honneurs de la soirée. Madame de M lui fit le plus gracieux sourire. Monsieur de M lui prit la main et l'engagea à revenir le plus souvent qu'il pourrait. Rodolphe avait enlevé d'emblée les cœurs du mari et de la femme au moyen d'un calembour. Oh, altitudo! La superbe manière dont il avait écouté et applaudi un nocturne chanté par des amateurs lui avait concilié l'estime générale et lui avait fait faire un pas énorme dans l'esprit de Madame de M. Mais son calembour, lui, en avait fait faire deux ou même trois, infiniment plus énormes que le premier. Car dans l'esprit et le cœur d'une femme, est-ce la même chose ou sont-ce deux choses? Le premier pas n'est absolument qu'un pas et ne vous conduit qu'au seuil de son âme. Le second, déjà plus allongé, vous met au plein milieu. Et le troisième, véritable pas fait avec des bottes de 7 lieues, vous conduit tout au bout et vous fait toucher le fond. Rodolphe était au fond de Madame de M, et cela dès la première séance. Infortuné jeune homme. Adoré de la femme, adoré du mari, la porte ouverte à deux battants, toutes les facilités du monde. Faites-moi donc quelque chose de forcené et d'énergique avec une pareille situation. On dansa. Rodolphe dansa et dansa en mesure encore, comme s'il n'était ni poète, ni jeune France, ni passionné. Mon Dieu, non! Il imite toute la grâce et toute l'élégance imaginable. Il ne marcha sur le pied d'aucune dame. Il ne creva la poitrine d'aucun homme avec son coude, et Madame de M avoua qu'elle n'avait jamais vu de cavalier plus parfait et qui dansa le galop d'une façon plus convenable. Rodolphe se retira fort tard, laissant de lui l'idée la plus favorable. Il eût été sincèrement et entièrement heureux s'il a pensé que sa pièce de verre ne pouvait lui servir, ne fût venu traverser sa béatitude, comme une ligne de nuage qui coupe un horizon clair. Il eut beau chercher 1000 billets, il ne put rien trouver. Et de guerre lasse, il résolut de tenir son douzain en portefeuille. Mais ces diables de verre lui grouillaient dans la poche et faisaient tous leurs efforts pour mettre le nez à la fenêtre. Un soir qu'il se trouvait chez Madame de M, il entendit une de ses amies qu'il appelait par son nom de baptême, et ce nom de baptême était Cyprienne. Rodolphe fit un bond d'un demi-pied de haut sur son fauteuil et bénit intérieurement le parrain et la marraine qui avaient innocemment eu la triomphante idée de donner à leur fille un nom trisyllabique et rimant en hyène. Ô reine de mon cœur, ô brune cyprienne, quelle beauté peut-on comparer à la tienne? Ah, cela allait tout seul! Rodolphe reprit sa respiration comme quelqu'un de soulagé d'un grand poids, comme une femme dont le mari s'en va et qui peut enfin aller ouvrir à son amant qui étouffe dans une armoire, ou comme un mari dont la femme monte en diligence pour aller passer 15 jours à la campagne. L'ami de Madame de M sortit après quelques propos de femme, et Rodolphe resta seul avec elle au lieu de profiter de ce tête-à-tête fortuit que le hasard lui ménageait. Le hasard, le plus grand des entremetteurs de ce monde, où il y en a tant et de si bon. Rodolphe, se comportant en vrai âne et en franc écolier, cherchait à substituer une épithète à l'épithète trop locale de Romain, dont il avait affublé le soleil dans son élucubration primitive, et perdait ainsi un temps bien plus précieux que celui d'Hannibal à Capoue. Enfin, il réussit, tant bien que mal, à rapiécer le tout et à mettre son douzain dans un état assez présentable. On se doute bien que sa conversation devait en souffrir un peu et que Madame de M dut le trouver singulièrement distrait. Il est vrai qu'elle attribua ses distractions à un tout autre motif. « Vous êtes un méchant de n'avoir pas encore écrit le vers sur mon album. Vous en faites pourtant, votre ami Albert me l'a dit. Et d'ailleurs, j'en ai vu de vous sur l'album de Madame de C. Oh, ils étaient en vérité charmants. Allons, ne vous faites pas prier. Écrivez-m'en quelques-uns, pendant que je vous tiens, » fit Madame de M, en lui posant l'album tout ouvert devant lui et en lui fourrant entre les doigts une mignonne plume de corbeau. Rodolphe ne se fit pas prier. Il avait si peur que l'occasion d'utiliser son douzain ne s'envolât qu'il la prit aux cheveux, à plein doigt. Elle écrivit de sa plus belle écriture, ce qui est encore bien bourgeois et bien écolier, un grand homme devant toujours écrire d'une manière illisible, témoin Napoléon. Dès qu'il eut fini, Madame de M, se penchant curieusement, reprit l'album et se mit à lire les vers à demi-voix. Et toute rougissante de plaisir, car les vers que l'on fait pour vous semblent toujours bons, même quand ils sont romantiques et que l'on est classique, et ainsi réciproquement. Vraiment, je ne savais pas que vous fissiez les impromptus sans être prévenu d'avance. Oh, vous êtes réellement un homme prodigieux, et vous ferez la 8e des 7 merveilles du monde. Mais c'est qu'ils sont vraiment très bien, ces vers. Le second, surtout, est charmant. J'aime aussi beaucoup la fin. Il y a peut-être un peu d'exagération, et mes yeux, si beaux que vous les vouliez trouver, sont loin de posséder un pareil pouvoir, mais c'est égal. La pensée est fort jolie. Il n'y a qu'une seule chose que vous devriez bien changer. C'est l'endroit où vous dites que ma peau est couleur d'orange. Ce serait fort vilain si c'était vrai. Heureusement que cela n'est pas, fit Madame de M en miaulant un peu. « Pardon, madame, ceci est de la couleur vénitienne, ne doit pas tout à fait se prendre au pied de la lettre, » objecta timidement Rodolphe, comme quelqu'un qui n'est pas bien sûr de ce qu'il dit et qui est prêt à se désister de son opinion. « Je suis un peu brune, mais je suis plus blanche que vous le croyez, » répliqua madame de M, en écartant un peu la dentelle noire qui voilait sa gorge. « Ceci n'est pas de la neige, ni de l'albâtre, ni de l'ivoire, et cependant ce n'est pas un zeste d'orange. Oh, vérité, messieurs les romantiques, quoique vous ayez le bon moment, vous êtes de grands fous. » Rodolphe souscrivit de bon cœur à cette proposition, quelque peu hétérodoxe, qui lui fait sauter au plancher quelques jours auparavant, et se mit à faire un feu roulant de madrigaux et de galanteries dans le goût de Dora et Marivaux, qui avaient bien l'air le plus bouffon du monde, obligés qu'ils étaient de passer entre une moustache et une royale de 1830. Madame de M l'écoutait avec un sérieux qu'elle eût assurément refusé à des choses sérieuses. Il n'y a en général que les futilités et les niaiseries que les femmes écoutent avec gravité. Bien, c'est pourquoi moi je n'en sais rien, et vous ? Rodolphe, voyant qu'elle écoutait religieusement et ne sourciait pas même aux endroits les plus véhéments et les plus exagérés, pensa qu'il ne serait pas mauvais de soutenir ce dialogue d'un peu de pantomime. La main de madame de M était posée à demi ouverte sur sa cuisse gauche. La main de Rodolphe était posée ouverte entièrement sur sa cuisse droite, ce qui est une très jolie position pour quelqu'un qui a de l'intelligence et qui sait s'en servir. Et Rodolphe avait à lui seul plus d'intelligence que plusieurs gendarmes ensemble. La main de madame de M était faite à ravir, les doigts effilés et menus, l'ongle rose, la chair potelée, trouvée de petites fossettes. Celle de Rodolphe était d'une petitesse remarquable, blanche, un peu maigre, une véritable main de patricien. C'était assurément deux mains bien faites pour être l'une dans l'autre. Cela parut démontrer à notre héros après une rapide inspection. Il ne s'agissait plus que d'en opérer la réunion, et je crois devoir à la postérité le récit des manœuvres et de la stratégie de Rodolphe pour parvenir à cet important résultat. Un espace de 4 pouces environ séparait les deux mains. Rodolphe poussa légèrement avec son coude le coude de madame de M. Ce mouvement fit glisser sa main sur sa robe, qui heureusement était de soie. Il ne restait plus que 2 pouces. Rodolphe fabriqua une phrase passionnée qui nécessitait un geste véhément. Il la débita avec une chaleur très confortable. Et, le geste fait, il laissa retomber sa main non sur sa cuisse, mais dans la main même de madame de M, qui était tournée la paume en l'air, comme nous l'avons déjà eu l'agrément de vous le dire plus haut. Voilà de la tactique où je ne m'y connais pas. Et, à mon avis, notre Rodolphe avait l'étoffe d'un excellent général d'armée. Il serra légèrement les doigts de madame de M entre ses doigts, de manière à lui faire comprendre que ce n'était pas un effet du hasard qui réunissait ainsi leurs deux mains, mais de manière aussi à se pouvoir rétracter si elle s'avisait d'être immodérément vertueuse, ce qui eût pu arriver. Les femmes sont quelquefois si étranges. Madame de M, qui était le profil, se mit de 3/4, redressa un peu la tête, ouvrit l'œil un peu plus que de coutume, et arrêta sur Rodolphe un regard dont la traduction littérale se réduisait à ceci « Monsieur, vous me tenez la main ?» À quoi Rodolphe répondit, sans dire un mot, en la serrant davantage, en penchant la tête à droite et en levant la prunelle au plafond, ce qui signifiait « Parbleu, madame, je le sais, mais pourquoi aussi avez-vous une aussi belle main ? Cette main est faite pour être tenue, il n'y a pas le moindre doute, et mon bonheur sera au comble si... » Un imperceptible sourire passa sur les lèvres de madame de M, puis elle ouvrit l'œil encore plus et gonfla dédaigneusement ses narines en roidissant sa main dans la main de Rodolphe, sans toutefois la retirer. De temps en temps, elle jetait une œillade vers la porte. « Traduction. Oui, monsieur, ma main est très jolie, mais ce n'est pas une raison pour la prendre, quoique ce soit de votre part une preuve de goût que de l'avoir fait. Je suis vertueuse, oui, monsieur, très vertueuse. Ma main est vertueuse, mon bras l'est aussi, ma jambe aussi, ma bouche encore plus. Ainsi vous ne gagnerez rien. Dirigez vos attaques d'un autre côté. D'ailleurs, tout cela appartient à mon mari, attendu qu'il a reçu de mon père 100 000 francs pour coucher avec moi, ce dont il s'acquitte assez mal, comme un vrai mari qu'il est et qu'il sera toujours. Donc laissez-moi, ou au moins ayez l'esprit, d'aller fermer cette porte, qui est toute grande ouverte. Après, nous verrons. » Rodolphe comprit à ravir et ne fit pas le plus léger contresens dans sa version. « Bon, il vient un vent par cette porte à vous glacer les jambes. Si vous permettez, je l'irai fermer. » Madame de M inclina doucement la tête, et Rodolphe, repoussant délicatement la main de la princesse sur son genou, se leva et ferma la porte. Oh, elle joint fort mal, et le vent y passe comme par un crible. Si je poussais ce petit verrou, cela la maintiendrait. Et Rodolphe poussa le verrou. Madame de M prit un air détaché et calme qui lui allait on ne peut mieux. Rodolphe vint se rasseoir à sa place sur la causeuse et il reprit la main de madame de M, non avec sa main droite comme auparavant, mais avec sa main gauche. Ce qui est extrêmement remarquable, il ne pouvait provenir que d'une haute conception. Vous verrez tout à l'heure, adorable lectrice, la profonde scélératesse cachée sous cette apparente bonhomie, et combien prendre une main avec sa droite ou sa gauche est une chose dissemblable, quoi qu'en puissent dire les ignorants. Le bras droit de Rodolphe touchait celui de madame de M, et la taille fière et cambrée de celle-ci, laissant un interstice entre elle et le dos de la causeuse, Rodolphe, le grand tacticien, insinua fort ingénieusement sa main, et puis son bras, par cette tranchée naturelle, et se trouva au bout de quelques instants remplacer le dossier de la causeuse sans que madame de M eût été obligée de s'en apercevoir, tant l'opération avait été conduite avec prudence et délicatesse. Vous croyez peut-être que Rodolphe, pendant toutes ses manœuvres anacréontiques, avait la bonhomie de parler de son amour à madame de M. Ah, si vous croyez cela, vous êtes un grand sot. Vous n'avez pas une haute opinion de la perspicacité de mon héros. Devinez de quoi il lui parlait ? Il lui parlait du nez d'une de ses amies intimes, qui devenait plus rouge de jour en jour, et s'empourprait d'une façon toute bachique. de la robe ridicule qu'avait madame une telle à la dernière soirée, de l'improvisation de monsieur Eugène de Pradel et de mille autres choses également inintéressantes à quoi madame de M prenait un singulier plaisir. De passion et d'amour, pas un mot. Il ne voulait pas l'avertir et la mettre sur ses gardes. Cela eût été par trop naïf. Parler d'amour à une femme qu'on veut avoir avant d'avoir engagé le combat, c'est à peu près agir comme un bravo qui vous dirait, avant de tirer son stylet, « Monsieur, si vous voulez avoir la bonté de le permettre, je vais prendre la liberté grande de vous assassiner. » Ouverture des hostilités. Il y avait sous la régence une habitude charmante que l'on a laissé perdre et que je regrette du fond de mon cœur, dit Rodolphe sans transition aucune. Oh, les petits soupers, n'est-ce pas? Répliqua madame de M avec un clignement d'œil dont la traduction libre pouvait être ces deux mots, monstrueux libertin. J'aime prodigieusement les petits soupers, les petites maisons, les petites marquises, les petits chiens, les petits romans et toutes les petites choses de la régence. C'était le bon temps. Il n'y avait alors que le vice qui se fit en grand et le plaisir était la seule affaire sérieuse. Jolie morale, dit et ne pensa pas madame de M. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je veux dire l'habitude de baiser la main aux femmes, fit Rodolphe en attirant à la hauteur de sa bouche la petite main de madame de M, repliée et cachée dans la sienne. Cela était à la fois galant et respectueux. Quel est votre avis là-dessus? Continua-t-il en appuyant le plus savant baiser sur sa peau blanche et douce. Mon avis là-dessus, mais quelle singulière question me faites-vous là, Rodolphe? Vous m'avez mise dans une situation à ne pouvoir vous répondre. Si je dis que cette manière me déplaît, j'aurais l'air d'une prude. Et si je l'approuve, c'est approuver en même temps la liberté que vous ayez prise et vous engager à recommencer, ce dont je me soucie assez peu. Il n'y aurait aucune pruderie à dire que cela vous déplaît. Il n'y aurait aucun risque à dire le contraire. Mon respect pour vous doit vous rassurer là-dessus. C'est tout bonnement une dissertation historique de l'archéologie en manière de baiser, fit Rodolphe avec un air de componction. Eh bien, je préfère, pour parler franchement, la coutume moderne d'embrasser les femmes à la figure, murmura madame de M, toute rose, d'une voix fort basse et néanmoins fort intelligible. Et moi aussi, répondit Rodolphe, d'un air libre et dégagé, quoique toujours infiniment respectueux, et du bras dont il avait déjà fait un dossier, il fit une écharpe autour de madame de M et l'enlaça de façon qu'elle était à moitié assise sur lui et que leurs têtes se touchaient presque. Madame de M, qui était de trois quarts, se mit de pleine face afin de faire tomber d'aplomb un regard foudroyant sur le criminel et audacieux Rodolphe. Mais le drôle, qui avait compté sur ce mouvement, ne se déconcerta pas le moins du monde. Et comme la bouche de madame de M se trouvait précisément vis-à-vis et à la hauteur de la sienne, il pensa qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce qu'elle fisse connaissance d'une manière plus intime, et que même il en pourrait résulter beaucoup d'agréments pour l'une et pour l'autre. Madame de M aurait dû rejeter sa tête en arrière et éviter ainsi le baiser de Rodolphe. Mais il est vrai qu'il eût avancé la sienne et qu'il n'y eût rien gagné. D'ailleurs, elle était maintenue étroitement par la main du jeune scélérat. La position topographique de cette main mérite une description particulière, et un ingénieur de mes amis en dressera une carte que je ferai graver et joindre à la 19e édition de ce mirifique ouvrage. En général, on entend par la taille d'une femme l'espace qui s'étend depuis les hanches jusqu'à la gorge par devant et jusqu'aux épaules par derrière. Cet espace comprend les régions lombaires et sous-lombaires, les fausses côtes et quelques-unes des véritables. Avant et depuis le déluge, ce mot n'a jamais voulu dire autre chose, et c'est ordinairement à l'endroit qu'il désigne qu'on pose la ceinture. Mais il paraît que Rodolphe l'entendait autrement, ou bien qu'il était d'une ignorance crasse en anatomie, ou bien encore que c'était un homme excessivement dangereux, un papavoine, un mandrin, un cartouche. Je vous laisse à choisir entre ces trois suppositions. Toujours est-il que sa main portait en plein sur le sein droit de son adorable. Le médius, l'annulaire et le petit doigt posaient honnêtement sur l'étoffe de la robe. Mais le pouce et l'index touchait à la place que Madame de M avait découverte pour montrer qu'elle n'était pas couleur d'orange et qu'elle avait imprudemment oublié de recouvrir. Cette main ainsi campée rappelait singulièrement les mains de Madone allaitant l'enfant Jésus, quoique son occupation fût assurément loin d'être aussi virginale. D'ailleurs, Madame de M, toute émue du baiser sensuel et recherché de Rodolphe, ne songeait aucunement à s'y soustraire. Et puis, au fond, elle aimait Rodolphe. Il se mettait fort bien, quoique un peu étrangement. Malgré sa moustache et sa royale, c'était un joli garçon, et en dépit de son don quichotisme de passion, il était prodigieusement spirituel. Je dis prodigieusement pour donner à entendre que ce n'était pas un imbécile, car depuis quelque temps on a tellement abusé de ce mot qu'il a tout à fait perdu sa valeur et sa signification primitive. Bref, il y avait physiquement et intellectuellement dans notre ami Rodolphe la matière d'un amant très confortable. Mon intention était de conduire Rodolphe jusqu'à la dernière extrémité, en le faisant passer à travers tous les petits obstacles prosaïques qui rendent si difficile la conquête d'une femme, même lorsqu'elle ne demande pas mieux que d'être vaincue. J'aurais décrit soigneusement la manière dont il s'y était pris pour écarter ou soulever l'une après l'autre toutes les voiles gênantes qui s'interposaient entre sa déesse et lui, comment il était parvenu à s'emparer de telle position et à se maintenir dans telle autre, et une infinité d'autres choses singulièrement instructives que la bégueulerie du siècle remplace par une ligne de points. Mais une de mes amies, en qui j'ai pleine confiance, à ce point que je ne crains pas de lui dire ce que je fais, a prétendu que la chasteté de la langue française s'opposait impérieusement à ce qu'on insistât sur de pareils détails, telle édification qu'il put d'ailleurs en résulter pour le public. J'aurais bien pu lui répondre que la langue française, toute précieuse qu'elle fût, se prêtait néanmoins à de certaines choses, et que, pour vertueuse qu'elle se donnât, elle savait cependant trouver le petit mot pour rire. Je lui aurais dit que tous les grands écrivains qui s'en étaient servis s'étaient permis avec elle de singulières privautés et lui avaient fait débiter mille et mille choses pour le moins incongrues. Je l'aurais appelé à vous, Molière, La Fontaine, Rabelais, Béroal de Verville, Régnier et toute la bande joyeuse de le bon vieux Gaulois. Mais j'ai l'habitude de me soumettre en tout aux décisions de mon ami. Pour me soustraire au « je te l'avais bien dit, tu veux jamais me croire » dont il ne manquerait pas de m'assommer si le passage censuré s'attirait l'animadversion de la critique. D'ailleurs, le public n'y perdra rien. Je me propose de restituer tous les passages scabreux et inconvenants dans une nouvelle édition et de les rassembler à la fin du volume, comme cela se pratique dans les éditions Ad Usum Delphini, afin que les dames n'aient pas la peine de lire le reste du livre et trouvent tout de suite les endroits intéressants. Cependant, malgré les scrupules de mon ami, je ne crois pas devoir user de la même retenue pour le dialogue que pour la pantomime, et je prends sur moi de rapporter ici la conversation de Rodolphe et de Madame de M, laissant à l'intelligence exercée de mes lectrices le soin de deviner quelles circonstances ont donné lieu aux demandes et aux réponses. Madame de M. Alors, Rodolphe, mon ami, vous n'êtes pas raisonnable. Rodolphe. Mais il me semble que si. Je vous aime, qu'y a-t-il là de si extravagant, et qu'il en ferait autant à ma place, sinon plus. C'est une mauvaise fortune dont il faut vous prendre pour votre beauté. Ce n'est pas à tout profit que d'être jolie femme. Mais je ne vous ai pas donné lieu, par ma conduite, d'en user de la sorte avec moi. « Ah, Rodolphe, si vous saviez la peine que vous me faites !»« Ah, assurément, mon intention n'était pas de vous en faire, et vous me pardonnerez un tort involontaire. »« Ah, Cyprienne, si vous saviez comme je vous aime !»« Je ne veux pas le savoir, je ne le puis ni ne le dois, et pourtant, vous le savez. »« Voilà bientôt 1 heure que vous me le dites. » 1 heure, c'est beaucoup pour convaincre d'une chose si facile à croire. Il y a 3 quarts d'heure que je ne devrais plus vous le dire, mais vous le prouvez. Je diffère entièrement de vous sur ce point. Si vous me disiez que vous m'aimez, moi, je le croirais tout de suite. Et que risqueriez-vous à le croire? Ni plus ni moins que vous à le dire. Oh, il n'y a pas moyen de parler avec vous. Vous voyez, et bien que si, puisque vous parlez. Toutefois, si vous le préférez, je m'en vais me taire. Il va faire nuit, on n'y voit presque plus. Monsieur Rodolphe, voulez-vous avoir la bonté de sonner qu'on apporte de la lumière, cette chambre d'un triste? Est-ce que vous voulez lire ou travailler? Cette chambre n'est pas triste. Je la trouve la plus gaie du monde, et ce demi-jour me semble le plus voluptueux qu'il soit possible de voir. Ici, la pantomime aiderait considérablement à l'intelligence du texte, qui paraît assez insignifiant, mais mon ami a biffé ce passage sous de triples lignes d'encre. Rodolphe, monsieur, je t'aime et je n'ai jamais aimé que toi. « Oh, mon ami, si vous disiez vrai, eh bien, bon, je suis une folle. La porte est-elle bien fermée? Au verrou. Non, non, je ne veux pas. Lâchez-moi ou je ne vous revois de ma vie. Ne me faites pas prendre de force ce qu'il me serait si doux d'obtenir. Rodolphe, que faites-vous là? Oh, oh! Par exemple, voilà une question on ne peut plus déplacer, et il n'y a que les femmes pour en faire de pareilles. Certainement, personne au monde n'était à même de savoir mieux que Madame de M ce que faisait Rodolphe, et nous ne pouvons imaginer dans quel but elle le lui demandait. Rodolphe ne répondit pas, et fit bien. Mais qu'allez-vous penser de moi à présent? Ah, oh, j'en mourrai de honte. Enfant, que voulez-vous que je pense? Sinon, vous êtes toute belle et que rien au monde n'est plus charmant. Tu me perds, mon ange, mais je t'aime. Mon Dieu, mais qui aurait dit cela? Ici, Madame de M. pencha la tête et cacha son visage entre l'épaule et le cou de Rodolphe. Cette position est habituelle aux femmes, en pareille occurrence. La grisette et la grande dame la prennent également. Est-ce pour pleurer ou pour rire? Je pencherai à croire que c'est pour rire. Du reste, cette position développe le cou et les épaules et leur fait décrire des courbes gracieuses. C'est peut-être cela le véritable motif pourquoi elle est employée si fréquemment. Toute cette scène, bien qu'assez inconvenante, n'en est pas plus passionnée pour cela. Et il est facile de s'apercevoir que Rodolphe est à 100 000 lieues de ce qu'il cherche. Il est vrai qu'il n'y a guère songé et qu'il s'est laissé aller bêtement et bourgeoisement à l'impression du moment. Il a eu un caprice et des désirs, voilà tout. Madame de M. est à peu de choses près dans le même cas. Le sang-froid et le repos d'esprit qui percent dans chaque mot qu'ils se disent est une chose vraiment admirable et suppose, de part et d'autre, l'expérience la plus consommée. Madame de M. avait toujours sa tête sur l'épaule de Rodolphe et celui-ci, après quelques minutes d'inaction, fit cette réflexion judicieuse qu'il n'y avait absolument rien d'artiste dans la scène qui venait de se jouer et que, loin de faire un cinquième acte de drame, elle était tout au plus digne de figurer dans un vaudeville. Il s'indigna contre lui-même d'avoir si mal exploité un si beau sujet et d'avoir manqué une si belle occasion de faire le passionner. Comme Madame de M. était une très jolie femme et qu'elle méritait indubitablement les honneurs du bis, Rodolphe prit cette résolution subite d'essayer un autre ton et de s'élever tout d'un coup au sommité le plus inaccessible de la passion délirante. Il la saisit à bras le corps d'une telle force qu'il lui fit presque ployer les côtes. « Fais-moi un collier de tes bras, ma bien-aimée, c'est le plus beau de tous. » Voir Hernani ou L'honneur castillan, drame en 5 actes et en vers de Victor Hugo. Madame de M. passa avec docilité ses bras autour du col de Rodolphe et croisa ses petites mains derrière sa nuque. « Encore ainsi, toujours, Anthony. » Drame en 5 actes et en prose. Madame de M. Mon ami, tu m'as toute décoiffée et tu en mêles tellement mes cheveux avec tes doigts qu'il me faudra 1 heure pour les débrouiller. Idolo dello mio cuore. Oh, laisse-moi passer la main dans tes cheveux. Consultez pour ces goûts romantiques les contes d'Espagne et d'Italie. Beaux cheveux qu'on rassemble les matins et qu'ensemble nous défaisons les soirs, dans les chansons à mettre en musique et la scène d'adieu de Don Paes et Passim, plusieurs autres vers non moins passionnés. En cet endroit, Rodolphe défit le peigne de Madame de M, qui tomba à terre et se brisa en 1000 morceaux. « Étourdi, oh, mon beau peigne d'écaille, vous l'avez cassé. »« Mais comment pouvez-vous faire une pareille observation dans un pareil moment ?»« Bon, c'était un fort beau peigne, un peigne anglais, et je ne pourrais que très difficilement en avoir un semblable. »« Que tes cheveux sont d'une belle nuance, on dirait une rivière d'ébène qui coule sur tes épaules. » En effet, les cheveux de Madame de M, délivrés de la morsure du peigne, tombaient presque sur ses reins. Ainsi faite, elle ne ressemblait pas mal à l'image de l'huile incomparable de Macassar. Rodolphe grimaçait d'une manière épileptique à la façon de Firmin, et les pieds de Madame de M, qui était beaucoup plus petite que lui, touchaient à peine la terre, attendu que ses bras étaient passés autour du col de son amant. Ce qui, avec ses cheveux en déroute et sa robe ne tenant plus sur les épaules, formait un groupe dans le goût moderne d'un galbe infiniment érotique et d'une tournure on ne peut plus artiste. Voir en général la vignette des intimes et en particulier celle de tous les romans possibles, voir aussi toutes les fins d'actes où les femmes ont les cheveux pendants, ce qui veut dire qu'on ne saurait exécuter honnêtement sur la scène, de même qu'une redingote ouverte et un mouchoir de batiste à la main signifie en langue théâtrale « demoiselle enceinte ». « Oh, mon ange, tu es d'un calme désespérant. Lorsque tout mon sang bouillonne dans mes veines comme une lave, tu restes là, muette, inanimée, et tu as plutôt l'air de subir mes caresses que de les recevoir. Et que veux-tu que je te dise et que je fasse? Je te dis que je t'aime et je me livre à toi. Non, je voudrais te voir pâle, les yeux bleus, les lèvres blanches, serrant les dents comme une femme qui ne se connaît plus. Non, c'est-à-dire que vous ne me trouvez pas bien comme je suis. En vérité, c'est un peu tôt. Méchante, mais tu sais bien que je te trouve adorable. Mais il faudrait te tordre, te crisper, râler, m'égratigner, et avoir de petits mouvements convulsifs, si qu'il convient à une femme passionnée. Mais tout cela est fort joli. En honneur, Rodolphe, vous n'avez pas le sens commun. Ici, Rodolphe lui prouve que, s'il n'a pas le sens commun, il rachète ce léger défaut par les plus brillantes qualités. Madame de M, tout émue et bégayant, « Oh, Rodolphe, si vous vouliez être comme tout le monde, vous seriez charmant. » Rodolphe, ne perdant pas de vue son idée, « Cyprienne, je t'en supplie, mords-moi. » Il est notoire par la balade de Barcelone, le poème d'Albertus et autres poésies transcendantes, que les amants romantiques se mangent à belles dents et ne vivent d'autre chose que des beefsteaks qu'ils se prélèvent l'un sur l'autre dans les moments de passion. Je hasarderai pourtant cette observation à messieurs les poètes et prosateurs de la nouvelle école, que rien n'est plus classique au monde que cela. On connaît le « Memorem dente notam » du sieur Horace, et si l'on ne craignait de paraître insolemment érudit, on rapporterait ici 200 passages de poètes latins et grecs où il est question de morsures et d'égratignures. Madame de M. Je vais t'embrasser si tu veux. Elle l'embrasse. Mais je ne te mordrai pas. Je t'aime trop pour te faire du mal. Du mal, oh, qu'un coup de poignard de toi me serait doux. Voyons, mords-moi, qu'est-ce que cela te fait? Oh, s'il ne faut que cela pour te contenter, c'est facile, mon amour, approche ta tête. Rodolphe, au comble de la joie, je donnerai ma vie en ce monde et dans l'autre pour satisfaire le moindre de tes caprices. Madame de M, pauvre amie. Elle appuie ses lèvres sur la joue de Rodolphe et la pince légèrement dans une tenaille de nacre, puis elle recule la tête en riant comme une folle et frotte avec le dos de sa main la légère marque blanche que ses dents ont laissée. « Bien, comme cela, ma lionne, à mon tour !» Il a mort au cou et pour tout de bon. « Aïe, aïe, Rodolphe! Monsieur, finissez donc, vous êtes enragé, vous oubliez toute convenance et vous vous comportez d'une manière. J'en aurai la marque pendant 8 jours. Je ne pourrai pas aller décolleter de la semaine et j'ai 3 soirées. Ah, on pensera que c'est monsieur votre mari qui a fait le coup. Allons donc, ce que vous dites là est extrêmement ridicule et de la dernière improbabilité. On sait bien que ces façons-là ne sont point celles des maris, et ils ne laissent guère de marques de ce genre. Oh, je suis très fâché de ce que vous avez fait. Cela est vraiment inqualifiable. » Rodolphe, atterré de cette sortie, prodigue à Madame de M les caresses les plus tendres et tâche de réparer son manque de convenance par la plus grande des inconvenances. Madame de M, un peu radoucie. « Bah, je mettrai mon collier de topaze. La monture est large et les anneaux sont serrés. On n'y verra que du feu. » Rodolphe lui coupe la parole par un baiser assaisonné de toutes les mignardises imaginables et conserve cependant un air dolent et mortifié, capable d'apitoyer un roc et, à plus forte raison, une femme assez compatissante de son naturel. Madame de M. « Ne crois pas que je t'en veuille, mon ami. Je ne puis rester fâchée avec toi. » Elle lui rend son baiser, revu, corrigé et considérablement augmenté. « Voilà la signature de ta grâce. »« Gling, gling, drelin, drelin !» Rodolphe effaré. « Qu'est-ce ? » Madame de M. du ton le plus tranquille. « Oh, je crois que c'est mon mari qui rentre. » « Votre mari ? Damnation, enfer ! Mais où me cacher ? N'y a-t-il pas ici quelque armoire ? Y a-t-il moyen de sauter par la fenêtre ? Oh, si j'avais ma bonne dague !» fouillant dans sa poche. « Ah ! Parbleu, la voilà ! Je vais le tuer, votre mari !» Madame de M, qui se recoiffe devant sa glace. « N'a pas besoin de le tuer !» Aidez-moi à remonter ma robe sur mon épaule. Mon corset m'empêche de lever le bras. Bien, passez-moi ce nœud de velours. Il cachera la morsure. Et maintenant, enfant que vous êtes, allez tirer le verrou. Ça aurait l'air d'un singulier d'être enfermés ensemble. Rodolphe lui obéissant de point en point. Le verrou est tiré, madame. Asseyez-vous là, devant moi, sur ce fauteuil, et tâchez d'avoir l'air un peu moins effarouché. Vous me disiez donc que la pièce nouvelle était mauvaise.
Moi, je ne disais pas cela, je ne disais rien du tout, je la trouve fort bonne.
Madame de M. bat. En vérité, pour un poète, vous n'êtes guère spirituel. N'entendez-vous pas monsieur qui vient ? Il faut bien avoir l'air de parler de quelque chose. » Le mari entre avec sa figure de mari, tout à fait bénigne et réjouissante à voir. « Ah, vous voilà, monsieur Rodolphe. Il y a une éternité que l'on ne vous a vu. Vous devenez d'un rare et vous nous négligez furieusement. C'est pas bien de négliger ses amis. » « Pourquoi donc n'êtes-vous pas venu dîner l'autre jour avec nous ?»«
A-t-il l'air stupide, celui-là ?
Monsieur, vous m'envoyez au désespoir une affaire de la dernière importance. Croyez que j'y ai plus perdu que vous. »«
Mais est-ce que je serai comme cela quand je serai marié ?
Oh, la bonne et honnête chose qu'un mari !»«
Oh, cela peut se réparer, venez demain !» Si toutefois vous n'êtes pas déjà engagé. J'ai précisément une loge pour une première représentation. L'auteur est fort de mes amis. Nous irons tous ensemble. »
Madame de M. Vous seriez vraiment bien aimable, monsieur, de nous faire le sacrifice de votre soirée. »
Comment donc, madame, vous appelez ça un sacrifice ? Mais où donc la pourrais-je passer plus agréablement ?
Vous diriez cela à une autre femme comme moi. C'est une simple politesse.
Mais non, ce n'est qu'une vérité. Si vous acceptez.
Oh, vous pouvez compter sur moi.
Voilà qui est arrangé. Mais je vous ai interrompu. Vous avez l'air d'avoir une conversation fort intéressante.
Rodolphe à lui-même. Oui, fort intéressante. Ce mari-là n'est pas un homme, c'est un buffle. Depuis Saint-Joseph, personne n'a été cocu de meilleure grâce. Il y met vraiment une bonne volonté charmante. Madame de M. aussi à elle-même. Oui, plus intéressante que la vôtre, mon mari très cher, qui êtes si monosyllabique et si laconique que j'en suis honteuse pour vous. Vous en étiez, je crois, sur la pièce nouvelle. Oui, et monsieur m'en disait tout le mal du monde. Je suis charmé, Rodolphe, de vous voir revenu à des sentiments plus raisonnables. Je vous disais bien que vous vous amenderiez. Il n'y a que le beau qui soit beau, quoi qu'on en dise, et la langue de Racine est une langue divine. Votre monsieur Hugo est un garçon qui ne manque pas de mérite, il a des dispositions, personne ne lui en refuse. La pièce qui a remporté le prix aux Jeux Floraux n'était vraiment pas mal. Mais depuis, il n'a fait qu'empirer. Aussi pourquoi ne veut-il pas parler français? Que l'écrit-il comme M. Casimir de la Vigne? J'applaudirai ses ouvrages comme ceux d'un autre. Je suis un homme sans prévention, moi. Rodolphe, bleu de colère et souriant avec une grâce inexprimable. Oh, certainement, M. Hugo a des défauts. Vieillasse de Picot, je ne sais pas à quoi il tient que je ne te jette par la fenêtre et sans l'ouvrir encore. Dans quel guépier me suis-je fourré? Mais qui n'a pas les siens? Coquine de Cyprienne. Oui, tout le monde a les siens, on ne peut pas être parfait. Madame de M. à part. Il n'y a rien de plus réjouissant au monde que la figure que fait en ce moment-ci le pauvre Rodolphe. En vérité, les hommes sont de piètres comédiens. Ils manquent totalement d'aplomb et la moindre chose les démonte. Les femmes leur sont bien supérieures en cela. Rodolphe. Cependant, cette pièce, bonne ou mauvaise, a du succès. C'est une chose qui, je crois, ne peut être contestée. Mais oui, c'est une fureur, on s'y porte. Madame de Cercey, qui voulait la voir, n'a pu se procurer une loge que pour la troisième représentation. Bon, on ira la siffler 100 fois de suite, elle tombera 3 mois durant, et la caisse du théâtre sera pleine à crever. Le mari. Oh, qu'est-ce que cela prouve? Athalie n'a pas eu de succès? Et d'ailleurs, il n'est pas difficile d'attirer le public en se refusant aucun moyen, en n'observant aucune règle. Je ferais une tragédie, moi, si je voulais, avec cette nouvelle manière de faire des vers, qui ressemble à de la prose comme 2 gouttes d'eau. Tout le monde pourra s'en passer la fantaisie. Il n'y a rien de plus aisé sur la terre. Si un mot me gêne dans ce vers-ci, ben je le mets dans l'autre, et ainsi de suite. Vous suivez bien mon raisonnement? Oui, monsieur, parfaitement. Oui, il est fort simple. Et alors, je parais plein de hardiesse et de génie. Allez, allez, je les connais bien, tous les principes subversifs de vos novateurs rétrogrades, suivant la belle expression de M. Jouy. Est-ce de M. de Jouy la belle expression? Rodolphe, apoplectique et se coupant la langue avec les dents. Bon, je ne sais pas, au juste. Je crois pourtant qu'elle est de M. Étienne. Oh, si elle n'est pas de M. Arnaud. Mais assurément, elle est d'un de ces trois. À moins cependant qu'elle ne soit de M. de Bahour-Lodian, ce qui n'a rien d'improbable. Vous en voulez furieusement, ces messieurs. Vous avez une vieille dent contre eux. Mais vous deviendrez sage en prenant des années. Il n'y a rien qui mette du plomb dans la tête comme 8 ou 10 ans de plus, vous finirez par être de l'institut comme un autre. Ainsi soit-il. Cela rapporte 1 800 francs. 1 800 francs sont toujours bons à prendre. Mais ceci est vrai comme de l'algèbre. Et les jetons de séance, qui sont très commodes pour jouer aux cartes. J'ai un de mes amis académiciens qui en a plein un grand sac. À propos de cartes,
si nous jouions une partie d'écarté, que vous en semble, Rodolphe ?
Rodolphe, la figure aussi longue que la mémoire de son tailleur.
Je suis à votre disposition pour cela comme pour autre chose.
Madame de M, ayant pitié de Rodolphe et n'étant pas fâchée de contrarier son mari en rendant service à son amant.
Oh, fille donc, mais si vous êtes bien insupportable avec vos cartes, ne seriez-vous resté une minute sans jouer? Vous allez donc me laisser là, à ne rien dire?
Le mari, du ton le plus obséquieux.
Bah, tout de bonne, je te ferai observer que tu deviens d'un égoïsme vraiment insociable. Bah, tu nous regarderas et tu nous conseilleras. Tu vois bien que monsieur se meurt d'envie de faire une partie avec moi, n'est-ce pas, monsieur Rodolphe?
Rodolphe, d'une voix caverneuse et qui semble sortir de dessous terre, comme celle de l'ombre dans Hamlet.
Oh, certainement, je meurs d'envie de faire une partie avec vous.
Le mari arrange la table et gagne tout l'argent à Rodolphe, qui ronge son frein et n'ose éclater. Ce qui prouve que Dieu ne reste pas oisif là-dedans, dans sa stalle au paradis, mais qu'il veille avec soin sur les actions des mortels et punit tôt ou tard l'homme peu délicat qui a osé convoiter l'âne, le bœuf ou la femme de son prochain. Madame de M bâille horriblement. Le mari déguise à peine sa joie et se frotte les mains de l'air le plus triomphal. Rodolphe a la physionomie la plus piteuse du monde et pourrait très bien poser pour un Ecce Homo. Il est tantôt minuit et l'aiguille n'a plus qu'un pas à faire pour attraper l'X. Rodolphe se lève, prend son chapeau. Le mari le reconduit et Madame de M trouve à peine le temps de lui serrer la main à la dérobée et de lui jeter dans le tuyau de l'oreille cette phrase courte mais significative.
À demain, mon ange, et de bonne heure.
Heureux Rodolphe. Il y a bien de quoi consoler de la perte de quelques écus de 100 sous à l'effigie de Napoléon ou de Charles X. Car en ce temps-là, le roi citoyen n'était pas inventé. Le lecteur aura sans doute remarqué que ces dernières pages ne valent pas le diable. Cela n'est pas difficile à voir. Tout cela est d'un fade et d'un banal à vous donner des nausées. On dirait d'une comédie de M. Casimir Bonjour. Le style est de la platitude la plus exemplaire, et cet interminable dialogue n'est autre chose qu'un tissu de lieux les communs les plus communs qu'ils soient. Il n'y a pas un seul trait spirituel. Et, levant la paille, l'auteur qui a écrit cela n'est qu'un petit grimaud à qui il faudrait donner du pied au cul et dont on devrait jeter le livre au feu. Mais à bien considérer les choses comme elles sont, on verra que la faute n'en est peut-être pas entièrement à l'auteur et que, voulant retracer avec fidélité une situation banale, il a été forcé d'être banal. Car je vous prie de croire, ami lecteur, qu'il est le commun autant que vous, pour le moins, et qu'il n'y tombe qu'à son corps défendant. Il a été trompé comme vous. Il ne s'imaginait pas avoir à écrire une histoire aussi ordinaire en entreprenant celle d'un jeune homme aussi excentrique que notre ami Rodolphe. Il croyait que les situations énergiques et passionnées allaient abonder sous sa plume, et qu'un individu muni de barbe, de moustache, de cheveux à la Raphaël, de plusieurs dagues, d'un cœur d'homme et d'une peau olivâtre, devait avoir de tout autres allures qu'un épicier gros, gras, rasé de frais, et guillotiné quotidiennement par son col de chemise. Oh, Rodolphe, oh, Rodolphe, oh, Rodolphe, Tu te vautres dans la prose comme un porc dans un bourbier. Tu as fait un calembour et plusieurs madrigaux. Tu as eu une bonne fortune et tu as joué aux cartes. Et pour mettre le comble à ces monstruosités, tu as dit du mal d'une pièce romantique. Repasse dans ta tête toute ta soirée et rougis, si tu peux rougir encore. Tu es entré par la porte comme un homme, tu t'es assis sur la causeuse comme un bourgeois, et tu as triomphé comme un second clerc d'huissier. Pourtant, c'était là une belle occasion de te servir de ton échelle de soie et de casser un carreau avec ta main enveloppée d'un foulard. Et tu n'as pas pris l'occasion aux cheveux, passionné Rodolphe. Tu n'aurais eu ensuite qu'à pousser ta belle dans un cabinet où tu l'aurais violée avec tout l'agrément possible. Tu n'avais qu'à vouloir pour faire de l'antonisme première qualité. Mais tu n'as pas voulu. C'est pourquoi je te méprise et te condamne à peser du sucre pendant l'éternité. Le pauvre jeune homme faisait toutes ses réflexions, ou à peu près, en s'en revenant chez lui. Comment moi, Rodolphe, moi majeur, moi beau garçon, moi poète, avec une femme qu'un Italien prendrait pour une Italienne, une femme ornée d'un mari et de tout ce qu'il faut pour établir une scène avec une dague de Tolède ou peu s'en faut, et le plus grand désir d'en faire usage, je ne puis parvenir à me procurer le plus petit événement, le plus petit incident dramatique, mais c'est à en mourir de honte et de dépit. J'ai beau faire, tout s'emboîte le plus naturellement du monde. J'attaque la femme, elle ne me résiste pas. Je veux entrer par la fenêtre, on me donne la clé de la porte. Le mari, au lieu d'être jaloux de moi, me donnerait sa femme à garder. Il tombe du ciel et me prend presque sur le fait. Il s'obstine à ne pas voir ce qui lui crève les yeux et les coussins au pillage et sa femme toute rouge et toute blanche et moi, dans l'état physique et moral, le plus équivoque. Il ne tire aucune induction de rien. Au lieu de me poignarder ou de me jeter par la croisée, comme la décence l'exigeait, au lieu de traîner sa femme par les cheveux tout autour de la chambre, ainsi qu'un mari dramatique doit faire, il me propose de jouer à l'écarté et me gagne plus d'argent qu'il ne m'en faudrait pour me saouler à mort, moi et tous mes amis intimes. Bon, je vois décidément que je suis né pour être un marchand de chandelles et non pour être un second homme de Lord Byron. Ceci est douloureux, mais c'est la vérité. Oh mon Dieu, que faire de cette poésie qui bouillonne dans mon sein et qui dévore mon existence? Où trouver une âme qui comprenne mon âme, un cœur qui réponde à mon cœur? Lorsque Rodolphe rentra chez lui, il entendit ses chats qui miaulaient du ton le plus piteux du monde. Tom en faux bourdon, la petite chatte blanche en contralto et son chat angora avec une voix de ténor qu'eût envié Rubini. Ils vinrent à lui d'un air de contentement ineffable. Tom faisant chatoyer ses grandes prunelles vertes, la petite chatte en faisant le gros dos, le chat angora en dressant sa queue comme un plumet, et ils lui souhaitèrent sa bienvenue au mieux qu'ils purent. Mariette vint aussi, mais elle avait l'air triste. Et lorsque Rodolphe, après l'avoir baisé au front assez distraitement, lui mit la main sur l'épaule pour passer dans sa chambre, au lieu de la hausser amicalement pour lui en éviter la fatigue, elle s'affaissa de telle sorte que la main de Rodolphe glissa et retomba au long de son corps. Rodolphe, occupé de toute autre chose, ne fit pas attention à ce mouvement. Il se coucha d'assez mauvaise humeur pour un homme qui vient d'avoir une bonne fortune. Mariette, avant de se retirer, tracassa longtemps dans la chambre, remua des porcelaines, ouvrit et ferma plusieurs tiroirs, et mit en œuvre tout pour attirer l'attention de Rodolphe, et peut-être pour se faire engager à rester. Mais Rodolphe avait d'excellentes raisons pour n'en rien faire. Voyant qu'elle n'y parvenait pas, elle prit le bougeoir et se retira en jetant sur son maître, plus d'à moitié endormi, un long regard plein d'amour et de colère.